Au carnet de l'économie cette semaine, Alexandra Roulet, doctorante à Harvard, qui achève une thèse sur les liens entre chômage et santé, mais qui plus largement nous a expliqué la différence entre taux d'emploi, taux de chômage, de vision du travail, comparaison États-Unis-France. Allons un petit peu plus loin, Alexandra Roulet. Vous dites quand même, en France, on a, c'est évidemment entre guillemets, une préférence pour le chômage. Mais ça n'est pas forcément une raison pour en rougir.
Oui, donc je pense, l'expression avait déjà été utilisée dans les années 80 par Denis Oliven. Mais en tout cas, moi, je ne la pense pas du tout en termes polémiques. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y a des réformes qu'on n'est pas forcément prêt à faire, qui sont des réformes qui réduiraient probablement le taux de chômage, mais qui créeraient de la précarité. Donc, qu'est-ce que c'est que ces réformes? C'est par exemple toucher au SMIC ou c'est rendre les licenciements plus faciles. C'est des réformes qui auraient tendance à créer de l'emploi, mais probablement sous la forme de petits boulots très mal rémunérés, très peu protégés. Donc, si on regarde par exemple l'Allemagne, avec les réformes Hartz dans les années 2003-2005, l'Allemagne a fortement libéralisé son marché du travail et ces réformes drastiques ont sûrement contribué à faire baisser le taux de chômage en Allemagne. Mais on sait aussi que l'année dernière, l'Allemagne s'est dotée d'un salaire minimum parce qu'elle faisait face à un problème de précarité. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce de... Souvent, on est... Et l'Espagne aussi, c'est un autre exemple, qui a été dos au mur récemment et qui a dû prendre de fortes réformes. Probablement que ces réformes vont faire baisser son taux de chômage de façon assez forte, mais il y a aussi fort à parier que ça va créer de la précarité ou des travailleurs pauvres, comme on dit parfois aussi.
On le dit aussi du Royaume-Uni. En même temps, on vous dit aussi que la croissance repartant assez fortement aux États-Unis, au Royaume-Uni, plus que chez nous, tout le monde peut en profiter. C'est un débat très ancien.
Oui, je pense que c'est un débat, mais je pense que le fond du problème, pour sortir vraiment de ce dilemme un peu entre chômage et précarité, c'est la question de la formation. Parce qu'en fait, on sait que le chômage ou les emplois peu précaires, ça touche essentiellement les gens peu qualifiés. Le problème de ces gens, c'est qu'ils sont amenés à effectuer des tâches d'une productivité assez faible, et donc des tâches routinières assez faciles. Donc les employeurs ne sont pas prêts à les payer très cher ou ne sont pas prêts à leur offrir des conditions de travail protégées. Et du coup, ces personnes-là, soit elles se retrouvent dans des emplois peu rémunérés, peu protégés, soit elles se retrouvent au chômage. Et d'ailleurs, à cet égard, Pierre-Noël Giraud, quand il parle de ce qu'il appelle les hommes inutiles...
Que nous avons reçu ici au Carnet,
voilà,
pour son travail.
C'est une assez bonne façon de comprendre que entre chômeurs et personnes qui sont dans les emplois précaires, c'est finalement la même catégorie de gens. C'est des gens qui ont essentiellement un problème de productivité. Et donc la façon de s'en sortir, c'est de monter en gamme, en quelque sorte, de former ces gens-là pour que leur permettre d'évoluer et de réaliser des tâches plus productives. Et donc les employeurs seront prêts à les rémunérer plus et à leur proposer des conditions d'emploi plus enviables.
En clair, donc, sortir quand même de nos rigidités et surtout favoriser les non-qualifiés. Ça fait d'ailleurs partie des projets français, on le sait en ce moment, de manière à faire de ces hommes inutiles, pour reprendre l'expression de Pierre-Noël Giraud, des gens
plus employable.
Utile.
Utile, exactement.
Et là, si vous reprenez très brièvement des comparaisons avec les États-Unis que vous connaissez bien, où vous travaillez.
Oui, je pense qu'aux États-Unis, c'est quand même une société où il y a beaucoup de petits boulots. C'est donc, en fait, quand on parlait hier des inactifs aux États-Unis, il faut bien comprendre qui sont ces gens. C'est des gens qui sont... qui peuvent aspirer seulement à des salaires assez faibles, qui ont souvent une famille, donc des frais de garde assez élevés aux États-Unis. Et donc pour eux, ça ne vaut pas le coup de prendre un emploi parce que leur salaire ne couvrirait pas les frais de garde d'enfants, par exemple, qu'ils devraient par ailleurs payer. Et donc, c'est des gens qui font le choix de ne pas participer au marché du travail. Inversement, il y a aussi des gens qui sont dans des petits boulots précaires pour qui la vie est très difficile. Il faut bien comprendre que les travailleurs pauvres aux États-Unis, maintenant, ils commencent à avoir une assurance santé, etc. C'est une grande victoire d'Obama, mais il y a quand même beaucoup de travailleurs pour qui les conditions de vie ne sont pas du tout enviables, quoi.
Et les formations ?
Et les formations, non, il n'y a pas de programme de formation aux États-Unis. La formation est quand même généralement payante.
Elle est chère. Elle est chère et elle est privée la plupart du temps.
Elle est privée la plupart du temps. Bon, il y a des systèmes de bourse, etc. Mais globalement, il y a des hommes inutiles aux États-Unis, oui.
Merci Alexandra Roulet. On se retrouve demain toujours sur ces questions emploi, chômage et santé. On va approcher du thème de votre thèse.